courant porteur. Initiative et résilience d'un territoire.
Un temps pour découvrir des personnes, des projets et dynamiques qui se passent maintenant et à côté de chez vous.
Un temps pour décrypter des sujets de fond, comprendre et donner du sens.
Une émission mensuelle présentée par Elisabeth Lucan et Ludovic Jiquel, cofondateurs de Sonessence.
Une association qui accompagne la création d'entreprises dans le Val-de-Saône. Bonjour à tous et toutes.
Bonjour à toutes et tous.
Aujourd'hui, dans notre émission, première partie initiative, nous recevons Victor Charmeton, boulanger solaire. Bonjour Victor.
Bonjour Elisabeth, bonjour Ludo. Et bonjour à toutes et tous.
Et dans la deuxième partie de l'émission, sur la partie fond, nous aborderons l'entrepreneuriat durable. C'est impossible parce que...
Titre énigmatique et nous passerons par du contenu dans neurosciences, en responsabilité sociétale des entreprises. Un contenu passionnant.
Et l'entrepreneuriat, bien sûr, l'entrepreneuriat. Toujours. Allez, démarrons tout de suite avec Victor. Victor, tu habites dans la vallée d'Azergues et tu lances ce projet de boulangerie avec un modèle économique très intéressant. Est-ce que, pour commencer, tu veux bien nous dire qui tu es, ton parcours ?
Oui, bien sûr. Alors, vaste question. Pour résumer et pour aller faire court, je suis un ancien prof d'anglais. Je me suis reconverti en tant que boulanger il y a 3 ans. J'avais fait plusieurs métiers qui sont liés tous un peu à la terre et au fait de bien manger. J'ai bossé un peu dans le maraîchage, dans la viticulture. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'anime vraiment ? Nourrir les autres, je l'avais déjà fait. J'avais nourri un peu les cerveaux de nos chers enfants. Et puis, je suis passé, du coup, en fait, j'ai fait deux journées qui ont un peu changé ma vision du pain. Avant, je ne mangeais pas trop de pain. Puis, j'ai rencontré un boulanger qui s'appelle Paul Vernet. Il est à la retraite maintenant. Il était à Civrieux-d'Azergues. Un sacré personnage qui m'a vraiment fait tomber amoureux du pain bio. Et j'ai voulu me lancer, en fait, voilà. Et tout s'est enchaîné. Et la même année, j'ai pu faire ma formation. J'ai trouvé une super boulangerie bio à Vez qui s'appelle 9e Pain, qui a bien voulu me prendre en apprentissage. Et j'ai fait le CFA, la gastronomie lyonnaise.
Donc, en fait, tu nourrissais les cerveaux des enfants et tu as décidé de te nourrir.
Et c'est ça le plus important aussi. Et avant de nourrir les autres, il faut d'abord être nourri soi-même. Et c'est là que j'ai découvert tout un océan.
Très bien. Et donc, ton point de bascule, c'est la rencontre avec ce boulanger.
Eh bien, ouais, c'est vraiment ça qui a changé, qui a tout changé, en fait. C'est lui qui a planté la première graine, le premier grain de blé.
Que tu as cultivé ensuite.
Exactement.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rêve à l'origine de ton engagement ?
Oui, donc, la même année où j'ai rencontré donc, ce cher Paul Vernet, je suis tombé sur un podcast qui parlait d'un jeune ingénieur nommé Arnaud Créteau, en Normandie, qui a inventé, avec d'autres, un four solaire. Donc au début, c'était à visée purement humanitaire en Afrique. Et puis, il s'est décidé à faire du pain lui-même grâce à un four de ce type. Donc ça m'a vraiment porté, ça m'a vraiment plu, quoi. L'idée de solaire, en plus, ça me correspond bien. Je trouve ça incroyable, quoi.
Et ça, c'est ton rêve ?
C'est mon rêve, et puis le pain aussi, voilà, c'est quelque chose qui me parle, c'est l'élément qui ramène tout le monde autour de la table. Dans notre tradition française, je trouve que c'est vraiment un truc qui peut nous relier. Et moi, je n'étais pas forcément un dingue de pain avant, et plus je creuse, et plus je trouve ça incroyable, en fait.
Je crois que tu nous parlais aussi de type de farine.
Totalement, ouais, c'est vrai que, bah, par exemple, le petit épeautre, en ce moment, moi, je jure plus que par ça. Et c'est des phases, en fait. On se rend compte que même la farine blanche, elle a beau être bio, c'est peut-être pas forcément la panacée. La farine complète, c'est déjà bien, intégrale aussi. Et puis après, on a une richesse, en fait, en France, de variétés qui sont vraiment super intéressantes à travailler et à goûter.
Oui, et ces nouvelles farines permettent de gérer ces problématiques de gluten dont on entend beaucoup parler en ce moment. On a commencé un tout petit peu à effleurer le sujet, mais j'ai envie d'avoir ton pitch. Est-ce que tu peux nous parler de ton projet ?
Ouais, bah, je suis parti du constat que beaucoup de gens me disaient souvent qu'ils aimeraient bien avoir un boulanger dans leur village. Parce que trouver du bon pain, pour beaucoup de gens, c'est devenu un casse-tête, même à Lyon, même dans la plupart des villes. Et en tant que boulanger, j'ai l'impression que le métier est un petit peu en crise, quoi. On a une crise énergétique qui fait que notre fonctionnement coûte de plus en plus cher, avec des fours électriques, des pétrins mécaniques. Et l'idée, bah, c'est de revenir un petit peu en arrière et retrouver un petit peu de bon sens dans ce métier. Donc moi, vraiment, ce que je veux développer, c'est avant tout utiliser des farines locales et biologiques et essayer de mettre le moins d'apport énergétique possible. Donc ça passe par des pétrins en bois, ça passe par un travail de la pâte qui est beaucoup plus limité, ce qui en plus préserve les vitamines. Donc c'est toujours un bonus. Pour pousser un peu le truc, moi j'ai vraiment ce projet de monter un four solaire. Il suppose d'avoir des journées de production de manière intermittente et de se conformer un petit peu comme un agriculteur à la météo. En attendant, je suis réaliste, je vais aussi prendre un four à bois, un petit four qui s'appelle l'Atelier Paysan. Et ouais, ce qui est dingue, c'est qu'au début du siècle, on avait un pain qui était peu cher, très nutritif et qui ne demandait pas tant d'énergie carbonée pour le produire, juste du bois. Et on en vient à tout l'inverse maintenant, un pain qui nourrit pas et qui coûte cher à produire. Donc je propose de remettre un petit peu de bon sens dans mon métier en alliant le meilleur de l'ancien. Donc le savoir-faire d'antan, via le travail du levain et l'utilisation des pétrins en bois, en y incorporant les atouts de la modernité, donc un four low-tech à concentration solaire. Ce four-là, en fait, il est très simple, c'est juste des rangées de miroirs qui concentrent l'énergie solaire sur un four.
Merci.
Génial.
Et je crois aussi qu'en termes de local, tu vas pas avoir une boulangerie comme on l'entend habituellement.
Oui, ça participe un petit peu de la même idée de réduire les coûts au maximum. Donc j'ai acheté une maison qui se prête avec un terrain suffisamment grand et bien orienté pour accueillir un four solaire et également un four à bois. Et je rénove du coup une partie de cette maison pour construire mon fournil.
Donc du coup, tu vas pas vendre en magasin? Comment les gens vont te trouver?
Et non, donc je vais avoir une liste de clients prêts à commander leur pain sur WhatsApp. Et je participerai à 2 marchés par semaine.
Et je crois qu'il y a aussi les marchés de producteurs à la ferme qui cherchent souvent les boulangers comme toi.
Exactement. Proche de là où je suis, il y a beaucoup de producteurs de fromage, il y a des producteurs de légumes. Et comme je disais, il n'y a pas d'offre de pain, en tout cas sur ce type de produit, de pain biologique au levain.
Magnifique. Donc on est vraiment sur ce métier qui, on a cru, immodifiable. Et sur lesquels il y a quand même des conditions de travail qui sont difficiles, où il faut se lever très tôt le matin, c'est tous les jours. Voilà, donc on est sur un modèle de ces nouveaux boulangers, et qui plus est, avec cette ambition de solaire avec toi.
Et ça va se passer donc, dans ton village de la vallée d'Azergues, à Chambeau-Allières.
Tout à fait, Ludovic.
Oui. Je voulais donner un écho dans le cadre de ton accompagnement par ce naissance. Tu me partageais que toi, ta raison d'être, ce que tu touchais du doigt avec cette activité, c'est cette envie de partager la lumière du soleil dans les ventres et les cœurs en construisant un nouvel avenir énergétique. J'ai trouvé ça touchant de pouvoir revenir sur cet élan-là qui dépasse juste la question de l'alimentation.
Il y a deux choses, ouais. Il y a bien sûr, il y a l'énergie, c'est un petit peu l'énergie, c'est ce qui nous anime et ce qui anime notre société. Si on en a moins, on va moins loin. La question, c'est de savoir quelle énergie on veut utiliser. Est-ce qu'elle est durable, renouvelable ou pas? Il y a la question de la dépendance et de notre autonomie aussi. On sait qu'on aura toujours du bois, a priori, par chez nous, et on aura toujours du soleil. Par contre, l'uranium et le gaz, ça, on sait qu'on est dépendant des grandes puissances et on voit bien que à l'heure actuelle, ça pose beaucoup de problèmes.
Super. Et qu'est-ce qui t'anime dans l'écosystème local?
Et dans l'écosystème local, moi, ce qui m'anime et ce que j'aime bien dans la vallée d'Azergues, c'est qu'on a vraiment plein de producteurs qui ont à cœur de proposer des choses qui les font vibrer et qui font vibrer aussi leur clients. Et je vois ça sur plein de produits, que ce soit de l'artisanat, du tissu, des fromages, des légumes. Je trouve ça vraiment chouette.
Merci. Est-ce que tu peux nous dire deux mots de ce que tu as vécu avec son essence ?
Deux mots, ça ne va pas suffire. Eh bien, non, c'était vraiment une belle aventure. Et c'est que le début, quoi. J'ai ouvert la boîte de Pandore, en fait, un peu avec son essence.
De Pandore ?
De Pandore. Non, en fait, c'est ce qui est dingue, c'est que j'aurais jamais cru que ce soit si riche. Moi, ça m'a permis de me poser des questions sur moi, sur pourquoi je faisais les choses. C'était une aventure humaine et ça l'est toujours, en fait. Ce qui est vraiment intéressant dans l'accompagnement proposé par son essence, c'est les pistes de réflexion qui sont aussi abordées en journée collective. Discuter avec des gens qui ont des envies de changement et de projets alternatifs. Qui œuvre un peu pour apporter une petite lumière d'espoir dans ce monde. Moi, ça m'a énormément apporté, ça m'a permis de mieux me comprendre aussi et de pouvoir avancer plus sereinement vers un avenir radieux pour tous.
On est vraiment dans le soleil. Et dis-moi, comment tu te vois dans 5 ans, toi, ton projet, ton équilibre aussi de vie perso, pro, on sait que c'est important.
Je vois plus de liens, plus de relations avec les autres. Je vois plus de vivre ensemble, plutôt que de chacun pour soi.
C'est à l'endroit où le métier de boulanger est aussi un métier faiseur de liens au sein d'un village. Et je sais que c'est quelque chose qui fait particulièrement sens pour toi, effectivement, les relations humaines et nourrir les autres. Encore une fois, c'est pas que l'alimentation, c'est aussi la chaleur de la relation.
Je le vois, moi, c'est le plus important. Hein. C'est ce qui faisait aussi. C'est une des dimensions que j'ai pris en compte dans l'établissement de ce projet. C'est vraiment, moi, le lien social, le fait de faire des marchés, etc. C'est une dimension essentielle de ce projet-là. Parce que je suis quelqu'un de sociable et je peux pas rester tout seul, les mains dans la pâte. J'ai vraiment besoin de me nourrir de la relation aux autres. Avant de les nourrir avec mon pain.
Et est-ce que tu as des actualités ? Où t'en es dans ton projet, là ?
Donc là, actuellement, je suis en train de finaliser les travaux de mon fournil. Voilà, ça a pris un petit peu de retard par rapport à mon calendrier prévisionnel. Mais voilà, j'avance là-dessus. Je suis toujours employé à mi-temps donc dans la boulangerie où je travaille actuellement, qui s'appelle le 9e Pain à Valmy, qui est une super boulangerie bio au levain. On essaie d'y aller à Lyon, donc 8 grandes rues de Vez. Voilà.
Oui, parce qu'on pourrait se demander, en termes de modèle économique, comment ça tourne aussi. Mais en fait, tu es déjà en place avec un boulanger où tu as des chiffres, finalement, aussi, pour te projeter.
Oui, exactement. Donc voilà. Attends.
Très bien. Exactement. Merci, Victor. Merci Victor. Donc, si vous souhaitez le contacter, vous pouvez le contacter par mail, voilà, à Victor, V-I-C-T-O-R, charmeton, C-H-A-R-M-E-T-O-N, @protonmail.com, P-R-O-T-O-N-M-A-I-L, tout attaché, .com.
Et pour la suite, la prochaine. Séquence de cette émission, nous accueillons, alors en fait elle est déjà là, une experte sur le sujet autour de l'entrepreneuriat. Alors elle a réentrepris il y a quelques années un mémoire de recherche intervention en master de socio-économique autour des notions d'entrepreneuriat durable et de représentation mentale. Et en outre, aussi depuis quelques années, elle donne des cours dans plusieurs cursus supérieurs autour des managements dans les organisations, de la responsabilité sociétale des entreprises, du design thinking et de bien, bien d'autres choses. Et donc, Elisabeth Lucan, à toi.
Autant pour mon humilité. Voilà. Merci Ludovic. Alors, vous connaissez peut-être cette phrase de Mark Twain qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Et voilà, c'est ce qui m'a un peu inspiré ce titre de l'entrepreneuriat durable, c'est impossible parce que... Alors, en premier lieu, c'est ce qui me semble important de poser, c'est ce qu'est l'entrepreneuriat durable et ce que cela implique, de quoi on parle. Et puis ensuite, nous aborderons les paramètres qui font que cela nous paraît impossible. Pour finir avec le comment, du coup, cela peut être possible. Alors, l'entrepreneuriat durable, qu'est-ce que c'est ? On est parti d'un postulat où l'entreprise est une voie de solution pour l'épanouissement de notre vie sur Terre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'activité humaine se fait à travers nos organisations, nos entreprises, et c'est à cet endroit-là que l'on peut agir. Alors, ce n'est pas le seul endroit, mais c'est l'endroit du propos d'aujourd'hui. Et pour nous, ainsi, il y a trois composantes pour parler d'un entrepreneuriat durable. L'entrepreneur, l'entreprise et le cadre lui-même du développement durable. Alors, si je commence par ce cadre de développement durable, de quoi on parle ? C'est le respect des trois axes de viabilité économique, sociale et environnementale. C'est une base simple qui a été posée et légiférée du niveau international jusqu'au national et qui est déclinée dans toutes les organisations. En RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises.
On parle bien, du coup, dans ce sociétal, de quelque chose qui englobe à la fois les activités humaines et l'habitabilité de la planète, ou les limites planétaires, ou en tout cas tout ce qui est autour des notions d'écologie. Et donc, oui. C'est une vision très englobante de ce que les entreprises peuvent être responsables.
Oui, puis on traduit souvent RSE par responsabilité sociale des entreprises, mais le social doit être entendu comme, en termes anglo-saxons, et en français, c'est sociétal, puisque c'est pas juste le lien social, c'est l'environnemental également. Voilà, premier propos sur l'entrepreneur. Alors, un entrepreneur durable, qu'est-ce que c'est ? C'est un entrepreneur qui est en bonne santé physique, psychologique et sociale. Je fais référence à la définition de l'Organisation mondiale de la santé qui dit que la santé, c'est pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité, mais bien cet état de total bien-être physique, psychologique et social. Donc, c'est d'abord avoir une bonne écologie intérieure, une bonne hygiène de vie. On parle bien sûr de santé physique et mentale. Et on peut faire référence à notre dernière émission sur la santé mentale de l'entrepreneur pour avoir les chiffres. Et puis, la deuxième partie, c'est une bonne intégration dans la société. Et quand on parle de société, ça inclut principalement l'ensemble du genre humain. Et j'aimerais qu'on élargisse le champ pour considérer plutôt une bonne intégration dans son environnement, ou on pourrait dire dans son écosystème, et dans son lien au vivant.
Oui, pour élargir et s'inclure finalement dans les enjeux de la coopération et dans les enjeux écologiques, on fait partie du vivant. Et donc, ayons cette vision assez large de comment être intégré au monde.
Ensuite, entreprise durable. On parle d'entreprise durable ou responsable. C'est une entreprise qui a intégré sa RSE à tous les niveaux. Donc, on parle à ce moment-là de RSE intégrée. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au premier niveau, c'est une entreprise qui a défini sa raison d'être. Alors, ça va au-delà de son objet social, puisque la raison d'être pose son utilité. Et ça fait référence à plus grand que soi-même, plus grand que l'entreprise elle-même. Souvent, les entreprises prennent comme référentiel les 17 objectifs de développement durable qui servent de base. Et puis on peut regarder également la modification qu'a amenée la loi Pacte carrément sur l'objet de l'entreprise dans le code civil et dans le code de commerce, puisque dorénavant, une entreprise a pour objet non pas seulement que de faire de l'argent, même si ça reste très important, mais elle doit également, en tout cas elle est invitée, à avoir le respect du social et de l'environnemental.
Une invitation, du coup, du point de vue de la législation, à voir au-delà de juste la lucrativité, mais du sens à avoir une activité de produit et de service dans un cadre plus large.
Deuxième partie, le moteur de l'entreprise, donc ce fameux modèle économique, qu'on appelle aussi modèle d'affaires ou business model. Il existe aujourd'hui des modèles qui sont nativement circulaires. Donc nous, on utilise celui de Circulab. J'en parle parce qu'en plus, il a cette dynamique de mettre au commun. Donc il y a des belles ressources sur leur site. Je vous invite à aller voir. Et aussi préciser que quand on parle de modèle économique circulaire, on n'est pas juste à retraiter des déchets, mais on est bien sur une circularité à toutes les étapes, de la conception, la production, la fabrication, etc. Voilà, ça c'est le deuxième niveau. Le moteur, le troisième, c'est tout cet objet, et c'est le modèle économique, est décliné en stratégie et en mode d'organisation et de gouvernance. Et puis, je nous invite, et ce développement durable nous invite à penser en partie prenante. On n'est pas sur une notion de l'autre est notre ennemi et de posture de sécurité, mais plutôt d'intégrer pour élargir le champ des possibles, encore une fois, et de ses impacts. Et on est également sur toute la chaîne de valeur. La chaîne de valeur, c'est quoi ? Ben, c'est ce qu'on disait juste avant, c'est la production, la fabrication, la conception. C'est tout le début du premier fournisseur de matières premières jusqu'au client final, voire au bénéficiaire, en interne et en externe. Et aujourd'hui, quand on parle de parties prenantes et de chaînes de valeur, on inclut également les communautés locales où sont implantées les entreprises. Donc d'où aussi cette notion d'écosystème et de territoire ou de bassin de vie. Enfin, penser coopération, c'est se positionner en complémentarité plutôt qu'en concurrence. C'est beaucoup plus propice à l'ouverture, il nous semble.
Et là-dessus, effectivement, le reste du vivant, avec tous les exemples et la palette large de modalités de symbiose ou de collaboration, coopération entre différents règnes, différentes espèces, sont des vraies sources d'inspiration.
Oui, et puis ce que tu racontais, Victor, dans la première partie de l'émission, je trouve, est très en lien à ça. Donc c'est ambitieux, je le conçois complètement. Il y a des étapes, il y a besoin de temps, mais il y a aussi des exemples, des outils, des méthodes et des gens compétents sur lesquels s'appuyer aujourd'hui et dans l'histoire, en France et ailleurs dans le monde. Deuxième partie, impossible de concevoir. C'est impossible de concevoir quand c'est trop différent. Donc c'est là effectivement que je fais le lien direct à mon mémoire. Et si, c'est le fruit d'une expérience, quand on pose la question à quelqu'un de « c'est quoi ton rêve ?», et ben très souvent, ce qu'il répond, c'est « mon rêve, c'est ça, 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 mais c'est pas possible, parce que ça, 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 ça. » Et du coup, je me suis questionnée pourquoi, et ça a fait appel à plusieurs choses. La première chose qu'on peut citer, c'est l'auto-saboteur en soi. C'est tous nos freins de confiance en soi, estime de soi, affirmation de soi. Et juste pour expliquer le propos, la confiance en soi, c'est la confiance dans sa capacité à faire. L'estime de soi, c'est la croyance dans sa valeur personnelle. Et l'affirmation de soi, c'est une capacité à croire en soi et en ses idées, une capacité à savoir exprimer ses opinions, ses émotions et ses sentiments de façon claire. Voilà, donc trois niveaux de confiance et d'estime et d'affirmation de soi qui peuvent tout à fait nous amener à cette posture de l'imposteur dont on parle beaucoup et cet auto-saboteur en soi. Et le deuxième élément très important, c'est notre cadre de référence. Alors, je le pose tout de suite ici, c'est on parle de nos représentations mentales, ce cadre de référence qui fait que si c'est, ce qu'on vit est trop différent, c'est impossible de le concevoir. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cadre de représentation mentale ou ce cadre de référence ? Eh bien, c'est le fruit de la culture, la société, l'époque, l'environnement familial et éducationnel dans lequel on est né. Mais c'est également influencé par notre genre, notre personnalité, notre sensibilité et le fruit de nos expériences. Cadre de référence, il est composé de deux choses. Une base de données qui est stockée dans notre mémoire à long terme et un processus de la mémoire à court terme qui permet d'interpréter et de donner du sens. Il faut savoir que ce cadre de référence il s'installe très très tôt. Il y a même des études qui parlent du processus fœtal, donc même avant même qu'on naisse. Mais on peut déjà dire que dans nos premiers mois d'existence, dans nos premières interactions avec le monde qui nous entoure, en fait, on constitue une première carte neurologique, une empreinte neurologique, qui conditionne nos réponses, on pourrait dire instinctives d'aujourd'hui, en tout cas des automatismes de réaction. Et ça entraîne également de nombreux biais qu'on appelle les biais cognitifs. Il y en a plus d'une centaine. On a en ressource, si vous voulez, cette carte des biais cognitifs. Mon préféré, c'est celui qui fait que on transforme ce que l'on vit en fonction de notre capacité à comprendre. En fait, on transforme la réalité à notre manière de voir les choses. C'est quand même hyper intéressant quand on veut avoir un grand changement.
Autrement dit, tu veux dire que nos réponses sont conditionnées par rapport aux données qu'on a en mémoire, donc une forme de déterminisme dans nos réactions.
Alors, il y a du processus automatique de réaction, tout à fait. Et plus il est fait jeune, plus c'est complexe de le modifier. Mais notre carte neurologique, elle change tout le temps. Mais peut-être avant de revenir là-dessus, dire à quel endroit c'est important. Puisque ce processus, il intervient, ce cadre de représentation mentale, il intervient pour trois processus quand même hyper importants. À chaque fois qu'on doit faire preuve de créativité, à chaque fois qu'on doit prendre une décision, et à chaque fois qu'on cherche une solution. Donc, autant te dire que c'est quand même trois processus fondamentaux. Et puis, si on rentre un peu plus dans le cœur du sujet, comment ça marche et effectivement, comment ça se fait que ce cadre, il est évolutif, ou surtout, comment il est évolutif. Première chose à comprendre, c'est que notre psyché fonctionne par image, par symbole. On connaît tous l'histoire de la Madeleine de Proust, qui, quand on la mange, évoque tout un univers à la fois onirique et sensoriel, sensuel. D'ailleurs, Boris Cyrulnik, qui est un des grands auteurs que j'affectionne, qui parle de la résilience humaine, il dit qu'on invente nos souvenirs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il y a les faits réels, et puis il y a tout ce qu'on a mis autour, en fait.
Et ça fait partie des biais cognitifs ? Ou c'est encore autre chose ?
Eh bien, ça fait partie des biais cognitifs et puis de tout ce qu'on brode, en fait, autour, oui. Donc, comment ça marche, cette évolution ? Eh bien, en fait, ça fonctionne par le ressenti d'une différence. Donc, je rappelle, le cadre de référence, il est basé dans la mémoire à long terme. Et quand on vit quelque chose, soit c'est différent, soit ça ne l'est pas. Si ce n'est pas différent, il n'y a pas de mise à jour. Si c'est différent, eh bien, il y a un processus de la mémoire à court terme qui se met en œuvre et qui vient tester cette différence et voir comment on peut l'intégrer. Par contre, si la différence est trop grande, eh bien, ça ne s'actualise pas non plus. Et je sais pas, pour ceux qui auront la rêve de Muriel Robin, son sketch sur « il imprime pas », bah, ça fait ça, en fait. C'est-à-dire que on entend l'information, mais elle passe directement et ça ne rentre pas, en fait, à l'intérieur. Donc, il n'y a pas de mise à jour.
Quand l'écart entre ce qu'on attend ou ce qu'on a déjà vécu et ce qu'on vit est trop grand, on ne peut pas attraper.
C'est ça.
Ah oui. On ne peut pas comprendre.
C'est...
Et encore moins, même... Et comprendre.
En fait, j'ai même un exemple. Moi, j'ai déjà eu dans mon expérience quelqu'un qui m'a dit quelque chose. Quand elle l'a dit, j'ai fait « Oh, waouh !» Ça, c'est une clé de compréhension et j'en veux. Je l'ai oublié instantanément. Elle me l'a répété. Je l'ai noté. J'ai perdu le papier. Jusqu'à ce que vraiment j'y mette de l'énergie quand même et que j'arrive en fait déjà à concevoir le changement et puis après que j'intègre dans ma vie un autre mode de fonctionnement, ça c'est tout le processus d'individuation et de résilience, mais on en parlera un autre jour.
Processus donc, d'individuation du coup décrit par Jung.
Oui, c'est
Carl
exactement
Gustav
ça.
Jung.
Tout à fait. Donc il imprime pas. La personne, le cerveau, n'imprime pas. Et donc, ce qui se met en place aussi, c'est les processus de sidération, de fuite, voire même de réponse agressive. Et ça peut potentiellement créer du trauma. Voilà, vous aurez compris que ce cadre de référence, ce cadre de représentation mentale, il peut s'actualiser. Mais il a besoin de, on pourrait dire, de douceur, de rythme et d'avoir quelque chose de progressif. Et donc, ça veut dire quoi aussi ? Ça veut dire que quand c'est trop différent, c'est impossible. Et que si je reviens à mon propos de l'entrepreneuriat durable, c'est impossible parce que c'est trop loin de ce qu'on croit possible au niveau personnel, mais au niveau de la société également. On pourrait dire que quand il y a du changement, eh bien, pour être intégré dans la société, on ne peut pas se permettre d'être trop différent. Et donc, ça peut mettre en jeu notre santé, comme on disait tout à l'heure, sociale. Voilà. Donc, ce changement, il passe par une évolution de culture, du cadre de représentation mentale aussi, de chaque individu. Et donc, pour ça, on a besoin d'exemples, à la fois des exemples d'évolution personnelle, de personnes qui sont autour de nous ou dans la société, de modèles d'entreprise et d'ancrage dans un territoire qui soit actionnable. Parce que pour que ça change et que ce soit justement faisable, il faut que ce soit sur quelque chose qui soit attrapable, en fait. Donc, les petits territoires, les bassins de vie font qu'il y a du lien possible et une plus grande action possible. Et tout ça dans un environnement donné, environnement, comme dit Ludovic, de lien avec l'ensemble du vivant et pas seulement juste l'humain. Il y a besoin de comprendre comment ça marche, il y a besoin de temps, d'un rythme propice au changement pour pouvoir expérimenter par soi-même.
Et j'ai envie aussi de faire le lien avec tout ce qui est de l'ordre de l'intelligence collective qui permet de peut-être croiser des représentations mentales différentes de manière à pouvoir les élargir mutuellement. Mmh. Et voilà, c'est aussi ce qu'on, dans le design thinking, les étapes de créativité permettent effectivement de sortir de nos sillons et d'imaginer qu'on peut peut-être cuire le pain différemment, le vendre différemment. Et d'avoir de gagner, j'allais dire gagner son pain, effectivement d'avoir des modèles économiques et gagner sa croûte avec voilà tout en répondant ou en étant en cohérence avec les enjeux d'aujourd'hui où on doit sortir de la lucrativité à tout prix.
Très intéressant ce que tu dis. Alors effectivement, tout à fait, le cadre de l'intelligence collective. Le fait d'être dans un... Alors déjà, le procédé en lui-même est hyper intéressant et le fait d'être dans un collectif bienveillant et sur lequel, chacun, dans lequel chacun avance de cette même manière, c'est très aidant. Néanmoins, quand tu es quelqu'un d'introverti qui n'a jamais eu le temps, l'occasion de parler, être dans un cadre d'intelligence collective, c'est justement potentiellement très différenciant et il y a besoin de temps. Alors... C'est une sacrée expérience. Mais ça se fait et ça fait grandir vraiment énormément. Et puis, peut-être aussi de dire je ne sais pas si vous connaissez le PFH dans les collectifs. Quand les collectifs se plantent, souvent, on dit que c'est à cause du PFH. Alors, excusez-moi la vulgarité. C'est le putain de facteur humain. Ah, tu veux dire précieux ? Ouais, bon, c'est pas comme ça que je l'ai entendu, mais certes. Parce que justement, en fait, dans tout collectif, qu'il soit en intelligence collective ou pas, il y a de la friction entre les gens. Et à un moment donné, quand on génère du changement, il y a besoin de prendre soin de ça et il y a besoin d'accompagnement. Et on ne prend pas forcément le temps de cet accompagnement-là qui permet l'intégration aussi personnelle. Voilà, c'est souvent que, même si le cadre est beau, c'est un peu compliqué.
Victor, je t'ai vu prendre des notes pendant la présentation. Est-ce que tu avais des réactions, des rebonds ?
Carrément, j'avais sonné beaucoup Elisabeth là-dessus parce qu'elle a des billes sur tout ce qui est super important pour devenir un entrepreneur épanoui. Et tout ce qu'elle a dit résonne totalement avec ce que je suis en train de vivre actuellement. Je pense que pour chaque personne qui monte un projet et même qui est bien établie dans son projet, il y a toujours une part d'auto-saboteur qui va venir remettre en question ce qu'on fait. Et c'est ça qui est vraiment intéressant aussi à prendre en compte. Et je pense que ce qui est le plus important, c'est la douceur que tu as évoquée. C'est le fait de se dire, mais quoi qu'on fasse, on le fait pour nos bonnes raisons. Et il faut être doux avec ce qu'on souhaite accomplir, doux avec soi et doux avec les autres. Et à partir de ça, je pense qu'on ne peut qu'aller dans la bonne direction. Mmh. On a tous nos travers, on a tous nos défauts, on a tous notre part de traumatisme, d'enfants blessés. Et même moi qui pensais être l'enfant parfait, sans aucun traumatisme et sans aucune problématique, on en a tous. Et si on n'en a pas, c'est peut-être justement qu'il y a du travail à faire.
Et pas mal.
Oui, et ça m'a touché effectivement de toucher à ton histoire, à ton histoire de vie et de voir les croisements entre ces limitations dont tu parles et aujourd'hui ce sur quoi tu butes et comment te soutenir, t'aider et que tu sois puissant dans l'expression de ton projet singulier.
Ce que je trouve, moi, magnifique, le retour aussi d'expérience, c'est le courage que tu as eu à ouvrir le champ des possibles aussi sur certaines parts de toi. Donc, on ne dira pas aujourd'hui, ce n'est pas le propos, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de courage à oser la vulnérabilité que rester dans un statu quo.
Carrément. Et puis, de toute façon, on est fait pour avancer. Alors, on a le droit de stagner de temps en temps, mais le but, c'est de savoir rebondir sur les petites difficultés qu'on a par moment. Et c'est ça qui fait la force d'un entrepreneur. Je pense que c'est vraiment la résilience, quoi. On est fait pour se prendre des gamelles, des chutes. La question, c'est de pas mettre... on a tous besoin d'un temps différent pour rebondir. Mais il faut pas perdre de vue l'objectif. Et puis, voilà, il faut accepter de prendre un petit peu de temps, parfois, pour aller de l'avant. Mais c'est vraiment cette dynamique. Et encore une fois, avoir un projet qui soit bien réel pour soi, ça aide toujours à se relever.
Ça me fait penser à cette croyance sur ce que c'est que le profil de l'entrepreneur qui est levé aux aurores, qui est le premier à ouvrir, qui est le dernier à fermer et qui tient tout à bout de bras et tout seul, en fait, qui je trouve extrêmement dur. Et pour les connaître, alors là, je ne parle pas de ceux qui sont salariés de milliers de personnes parce qu'il y a plus de distance, mais tous les petits patrons, ils ont une telle... Enfin, c'est souvent eux qui ne dorment pas la nuit. Et ce n'est pas forcément entendable d'être accompagné à cet endroit-là et d'avoir un rythme qui soit OK pour soi, en fait.
Et c'est pile à cet endroit, du propos de cette séquence du coup, sur l'entrepreneuriat durable, où il y a un besoin de changer cette image, changer notre représentation mentale, collective, de ce qu'est l'entrepreneuriat. Et avoir osé... prendre soin de soi, de son rythme, de ses besoins, et être un humain aligné de manière à ce que notre action dans le monde puisse l'être également.
En conclusion,
oui.
J'ai envie de dire que notre action, elle vise à ça, à montrer que c'est possible et comment c'est possible, voire même à le faire vivre, si on nous en laisse l'occasion. Et puis, ces émissions de radio qu'on fait là aujourd'hui servent modestement ce propos et viennent nourrir le savoir commun. Merci à tous.
Merci.
Merci à
tous. Merci à toi, aussi,
Victor, d'avoir répondu présent à cet appel.
Bientôt pour manger du pain.
À bientôt pour manger du pain.
Avec grand plaisir.
Vous retrouverez les sources et les différentes informations en lien à cette émission sur la page de l'émission sur radiocalade.fr. Le mois prochain, vous nous retrouverez autour d'une initiative de potagers verticaux. Nous parlerons également d'économie régénérative.
Et ben, tout à fait. À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Courant porteur.
Initiative et résilience d'un territoire.